Véronique Mortaigne publie double jeu, donc consacré évidemment à Serge et Jane Birkin, Serge Gainsbourg. Un couple mythique finalement, mais peut-être un des couples les plus improbables.
Oui, parce que déjà, quand ils se rencontrent pour tourner Slogan de Pierre Grimblat, ils ne s'aiment pas a priori, hein, ils se détestent parce qu'ils trouvent qu'elle est... Elle n'a pas d'intérêt, elle n'est pas très jolie. Et puis elle dit « Qu'est-ce que c'est que ce mec bougon ? Il a l'air sadique. Il s'appelle comment déjà ? Serge Bourguignon ?» Enfin bref, ça ne va pas. Et en fait, c'est quand il la voit pleurer. Elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à dire les choses bien en français, puisqu'elle est anglaise. Et donc elle se met à pleurer. Alors là, la carapace de Gainsbourg craque. Et il découvre autre chose et il l'emmène chez Rasputin. Et là, elle voit en lui le pianiste russe, juif, immigré. Et elle, l'anglaise, fille d'un commandant de la Navy qui a sauvé des vies de résistants et de militaires français pendant la guerre. Et là, la jonction commence à se faire. Et c'est vrai que c'était assez improbable. Il a 40 ans, elle a 20 ans, donc c'est, elle est anglaise. Et puis finalement, quand on analyse un peu, il y avait toutes les chances qu'ils se rencontrent. Parce que lui... part à Londres déjà dès 1966-67 trouver des nouveaux sons. Elle appartient au Swing in London dont Gainsbourg a bien vu que c'était une révolution artistique, musicale, sociétale avant mai 68. Et là, il y a une admiration mutuelle hein, d'une certaine manière qui se noue et finalement ils se rencontrent comme ça sur des choses assez profondes. En plus, il est jumeau. Il a une jumelle, donc c'est une partie assez cachée de sa vie, puisque la jumelle n'apparaît jamais. Elle vit une vie extrêmement discrète au Maroc, elle s'est mariée, elle est partie avec son mari. Et elle a une relation très gemellaire aussi avec son frère Andrew. Ils ont un an de différence, elle est très androgyne, et ça, Gainsbourg adore. Donc c'est sur des choses assez profondes comme ça qu'ils vont se rencontrer. Lui... écrit quand même des chansons assez, je ne dirais pas trash, mais il y a une part de sombre, etc. Et elle, elle a une voix angélique, elle a une voix vraiment d'enfant de cœur, comme elle dit. Et donc voilà, c'est tous ces points qui se rencontrent et qui convergent pour en former un couple.
Alors, un couple, et un couple qui a duré. Parce que quelquefois, effectivement, il y a un élément et puis, ça ne dure pas. Mais ce couple, il a duré même au-delà, d'ailleurs, de leur séparation.
Mais ils se séparent et Gainsbourg continue à composer pour Jane. Ça, c'est vraiment important. C'est une histoire artistique, évidemment, l'histoire de leur couple. Donc, ils se séparent, il écrit des chansons merveilleuses, les deux sous-chics, etc., alors qu'ils ne sont plus ensemble. Et puis elle, après lui meurt, et elle continue à porter l'œuvre de Gainsbourg. Hein. C'est-à-dire, elle le chante... c'est une excellente interprète, elle le chante sous des angles et des lumières très différentes, en jazz, à l'oriental, symphonique maintenant. Elle essaie de la magnifier et de montrer à quel point Gainsbourg a été important dans la culture populaire, dans la chanson et dans la poésie aussi.
Alors qui a révélé l'autre ? Est-ce que c'est Gainsbourg grâce à ses chansons ? Est-ce que c'est Jane qui a désinhibé Gainsbourg si tant est qu'il fallait qu'il le soit ?
On dit toujours que la femme est la muse de l'homme, donc Jane était la muse de Gainsbourg, mais c'est un peu irritant comme perspective. Et d'ailleurs Lou Doyon, la fille de Jane et de Jacques Doyon, le dit bien, dit dans cette famille, finalement, les femmes c'est toujours des muses, ça suffit, il y en a marre, non c'est pas ça. Ce qu'elle a donné à Gainsbourg, ce qu'elle a rendu à Gainsbourg, c'est une partie de lui-même, et sa partie féminine. Hein, c'est sa féminité, donc elle lui offre des répétos, des chaussures répétos, elle lui offre des bijoux de duchesse, comme elle disait, elle lui laisse pousser les cheveux, comme ça on ne voit plus tellement ses oreilles en feuilles de chou. Donc c'est un look physique, et puis c'est aussi tout le côté extrêmement féminin qu'on retrouve dans l'écriture des chansons de Gainsbourg après Jane. Et ça, c'est vraiment important. Et à elle, lui, ce qu'il donne, c'est une espèce de mise en lumière autre que l'ingénu qui joue dans Blow Up, évidemment. Et c'est très important, parce que là, vraiment, le masculin-féminin, là, joue beaucoup.
Il y a un côté, j'allais dire, Janus, finalement, presque pièce à double face entre les deux, mais qui ne font qu'un.
Oui, ils ne font qu'un, mais en même temps, ils sont à la fois fusionnels et à la fois double jeu, justement. C'est-à-dire, ils ne perdent jamais... leur personnalité. Jane n'a jamais...
Ça clash quelquefois.
Ah oui, ça clash, oui, bien sûr, ça clash. Et puis après, il y a toute la vie mondaine, il y a évidemment toutes les sorties nocturnes qui font que Gainsbourg boit des 102, hein, c'est des doubles pastis 51, donc évidemment ça finit parfois mal. Un jour, vers la fin de leur histoire, il renverse son panier d'osier par terre, chez Castel, devant tout le monde, et c'est comme un viol de son intimité pour Jane, donc elle prend la tarte à je sais pas quoi là, qui était sur la table, lui balance à la figure, il dégouline de tarte, c'est elle qui le raconte, elle se sauve, il la suit, elle se jette dans la Seine, et il la récupère, et elle dit avec l'humour qui la caractérise, mais je me souviens plus s'il avait enlevé sa montre avant de me récupérer. Donc c'est et puis ma robe Saint-Laurent avait rétréci, donc on avait la ridicule et ils rentrent tous les deux à la maison. Donc c'est voilà, c'est un peu.
Merci donc Véronique Mortagne. Double jeu pour mieux peut-être encore et découvrir des choses sur Serge Gainsbourg et Jane Birkin. C'est publié aux éditions de l'Équateur. Merci à vous.
Merci à vous.